du vent. Le magazine de l'environnement sur RFI.
L'océan recouvre les deux tiers de notre planète, immense étendue, il nous semble infini et pourtant l'impact de nos activités est visible partout. Bonjour Jean-François Guiglione.
Bonjour.
Vous êtes directeur adjoint de l'Observatoire océanologique de Banyuls-sur-Mer et vous revenez d'un voyage extraordinaire, un mois et demi, à bord de la goélette scientifique Tara qui poursuit son expédition entamée en mai 2016 à travers le Pacifique. Le but, étudier l'état des récifs coralliens face au changement climatique et aux pollutions. Nous suivons cette expédition mois par mois dans ces pas du vent. Et vous, Jean-François Guiglione, vous avez navigué des Philippines à la Chine.
C'était la cinquième fois en fait que j'embarquais sur cette goélette Tara qui fait un peu le tour du monde pour faire l'état des océans.
C'était une belle navigation, j'imagine.
Encore une belle navigation, effectivement. En plus, là, on est dans des zones du Pacifique qui sont vraiment magnifiques, avec une diversité corallienne qui est magnifique, mais malheureusement, elle est fragile. Et comme on va en discuter maintenant, en fait, on a pas mal de pollution qui vont perturber ces écosystèmes.
Alors justement, avant de détailler ce que vous avez pu constater sur Tara, on va prendre un peu de hauteur et on va planter le décor. Quelle est la part de l'océan qui est polluée aujourd'hui ?
Alors c'est difficile à dire comme ça, la part de l'océan, on sait que les côtes sont plus polluées, près des villes évidemment, parce qu'on a beaucoup de rejets, et la pollution est assez multiple, donc on n'a pas une pollution simplement par des pesticides à des endroits ou des métaux lourds à d'autres endroits, en fait la pollution est globale, elle touche tous les océans, on sait que par exemple si on va prendre de la glace en Antarctique ou en Arctique, on trouve des polluants, il faut voir en fait que la nature elle n'a pas vraiment de frontières, on a une dispersion de tous les polluants sur la planète, donc on peut pourrait dire que les océans sont touchés par tous les polluants qu'on va amener en mer
et
partout.
Et alors quels sont ces polluants, les principaux? Il y en a plein, on ne peut pas tout lister. Mais...
Ouais, évidemment, il y a les pesticides, il y a les métaux lourds, il y a toute l'industrie en fait, humaine. Quoi qu'il arrive, n'importe quel déchet va finalement arriver en mer. Et donc le problème des plastiques, c'est typique des pollutions humaines qui vont, par exemple, si je lâche un sac plastique en montagne, sachant que la durée du plastique dure entre 100 et 400 ans, et bien il va avoir largement le temps d'arriver en mer. Et c'est le cas de plein de polluants différents. Et le plastique, quelque part, c'est un peu un fer de lance aujourd'hui qui parle de la pollution de nos océans.
Alors justement, quelle est la part du plastique dans les pollutions? Ou est-ce que, je sais pas, quelle est la quantité de plastique que l'on retrouve chaque année?
Alors les quantités, elles commencent à être connues. On a plus de 300 000 tonnes de plastique qui sont trouvées dans les océans. C'est équivalent à ce qui est produit aujourd'hui sur la Terre. Donc globalement, en fait, on a 10% de la production mondiale qui arrive dans l'océan. Donc qui n'est pas collectée et qui au final termine sa vie dans les océans.
Oui, parce que ça s'accumule d'année en année.
C'est ça, tout à fait. En fait, la production mondiale de plastique, elle a augmenté de 20 pendant les 50 dernières années. Elle va encore augmenter de 2 pendant les 20 prochaines années. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est à 300 milliards de tonnes. On va passer à 600 milliards de tonnes. Et tout ça, en fait, ça fait toujours, les 10% vont toujours arriver en mer parce qu'on a des problèmes de collecte, etc. Et on sait qu'on a de plus en plus de plastique qui arrive en mer. Les prédictions, par exemple, pour la Méditerranée, c'est que d'ici 2030, on va avoir encore une augmentation du 8%.
Alors que la Méditerranée est l'endroit le plus pollué avec les microplastiques, c'est ça? Les microplastiques, c'est une fois que le plastique s'est dégradé. On le voit pas. À l'œil nu, on voit des belles eaux turquoises. On se dit c'est magnifique, mais en fait, c'est bourré de microplastiques.
Effectivement, c'était un peu l'objet de l'ancienne mission Tara Méditerranée. Donc, on a fait vraiment le tour de la Méditerranée pendant 7 mois et c'était un peu la force de cette mission parce qu'on a récupéré énormément d'échantillons, énormément de données. Et là, ce qu'on a pu voir, effectivement, c'est que déjà, toute la Méditerranée est polluée. Et les concentrations en fait, de plastique, la quantité de plastique qu'on a par volume d'eau est équivalente à ce qu'on peut trouver dans le 7e continent de plastique, qui est la zone la plus connue pour la pollution par les plastiques. Aujourd'hui, en termes de microplastiques, donc ces petits morceaux de plastique qui font moins de 5 mm et qui sont issus de la dégradation des gros morceaux, eh bien, en fait, on a des concentrations qui sont énormes, voire les plus importantes en Méditerranée.
Alors ce sont les pays qui sont autour de la mer Méditerranée qui rejettent leur plastique et en fait comme c'est une mer presque fermée, ça ne circule pas, c'est ça?
C'est ça, en fait le fonctionnement du 7e continent de plastique c'est un gyre, donc c'est un courant qui fait des ronds et
vous
qui
pouvez rappeler
avant,
où il est?
Donc il est dans le Pacifique Nord donc, dans ces endroits, c'est dans des endroits naturels hein, où il y avait du bois, maintenant en fait il est rempli de plastique. La Méditerranée c'est la même chose, en fait c'est une mer qui est fermée et elle a cette fois-ci un accès direct en fait des polluants qui vont tomber dedans. dedans. Et le taux de renouvellement de l'eau, c'est 90 ans. Sachant qu'un plastique a une durée de vie plus importante, si je veux vider toute la Méditerranée des plastiques, eh ben j'en ramène encore toujours et toujours, et c'est pour ça qu'on va voir une augmentation de ces plastiques en Méditerranée.
Et il y a des zones dans le monde qui polluent plus que d'autres, et vous vous en êtes rendu compte en voguant vers la Chine ?
Ouais, effectivement, en fait. Alors, il y a des zones qui sont plus pollueurs. On sait à peu près que les estimations, c'est 8 milliards de tonnes de plastique qui vient du continent, parce que la pollution, elle vient essentiellement du continent.
Donc, c'est 8 milliards de tonnes. 300 000 tonnes tout à l'heure.
Alors les 300 000 tonnes, en fait, c'est ce qu'on retrouve à la surface. Les 8 millions de tonnes, c'est tout ce qui est amené chaque année. Sur ces 8 millions de tonnes, en fait, il y a 2,4 millions de tonnes, donc presque un tiers, qui vient simplement de la Chine. Donc il y a des pays qui sont plus pollueurs. Et c'est cette zone-là, en fait, où la pollution est la plus importante, en Indonésie, en Chine, au Vietnam, aux Philippines. Et c'est là où on était récemment. Et je vous avoue que j'ai eu la chance, en fait, de faire plein de missions océanographiques dans le monde entier. C'est la zone où, personnellement, j'ai vu le plus de macro-déchets à la surface de l'eau, parce qu'il y a une quantité de déchets énorme dans ces eaux. On parle beaucoup sur le papier de ces problématiques-là, et en fait, quand on le voit de nous-mêmes, ça amène de l'émotion aussi. C'est des choses qui sont assez touchantes, effectivement, de se rendre compte qu'il y a des zones de la planète où le problème est vraiment crucial, et pour l'instant, les solutions ne sont pas forcément adaptées dans ces endroits-là, quoi.
Alors justement, la goélette scientifique Tara est arrivée à Hong Kong, où elle met entre parenthèses son travail sur le corail pour accueillir le grand public et sensibiliser les Hongkongais au stress qui impacte leurs récifs coralliens. Dans cette ville-région, ancienne colonie britannique rétrocédée à la Chine il y a 20 ans, Tara découvre un territoire ultra urbanisé soumis à un défi de taille, la gestion de ses déchets dans le respect de l'écosystème sous-marin qui l'entoure. C'est un véritable casse-tête, comme le démontre ce reportage de Agathe Roulin.
Le capitaine Samuel Audrin sort la tête du cockpit. À bâbord comme à tribord, des immeubles interminables. On a rangé les voiles et le bateau. Au moteur, glisse lentement sur Tatong Channel, le passage à l'est de Hong Kong. Après plusieurs jours sans voir la terre, les marins découvrent enfin le New York asiatique.
Il est bientôt midi, là, on est en train d'arriver sur Hong Kong. On était en mer depuis 4 jours, là, et retour à la ville. C'est un peu surprenant, tous ces immeubles, il y a une sacrée concentration au mètre carré ici.
Tara a passé ses amarres au quai numéro 9 sur l'île de Hong Kong. On est ici en plein cœur de la ville, dans le quartier des affaires. Pendant plus d'une semaine, les Hongkongais défileront sur le pont pour visiter la goélette et découvrir l'expédition Tara Pacifique. Tout autour du bateau, des buildings semblent faire la course pour toucher le ciel. Ville verticale de plus de 7 millions d'habitants, Hong Kong est entourée d'eau. Et malheureusement, ces déchets, notamment les plastiques, finissent trop souvent dans la mer et sur les plages. 10 minutes de taxi entre les buildings et puis soudain, changement de décor radical, la nature. Une végétation luxuriante, généreuse, des montagnes, des feuilles. En un instant, le vert des arbres a remplacé le gris de la ville. Et puis bientôt, du bleu, la mer, la plage de Sheko, au sud-est de l'île. C'est là que l'équipage de Tara retrouve une centaine de bénévoles venus débarrasser le sable et la mangrove de déchets en tout genre charriés par la marée. Il y a beaucoup d'expatriés, des Français essentiellement, puisque l'opération est organisée par la communauté française de Hong Kong.
Donc on prend tout, on met dans les sacs, on ramène tout ici, et ici on trie.
Les sacs, vous pouvez utiliser ceux-là, et c'est ceux dans lesquels on mettra les bouteilles plastiques à la fin de toute manière. Sinon vous pouvez utiliser ça, mais vous les videz quoi qu'il arrive. Vous pouvez prendre tout ce que vous voulez.
Vous gardez les sacs poubelles, si vous pouvez, vous gardez les sacs poubelles quand on a fini le tri. Alors, vous utilisez au maximum ces sacs-là et vous ramenez tout ici.
Le capitaine de Tara, Samuel Audrin, a déjà rempli la moitié de son sac. À ses côtés, Paul, 9 ans.
Eh ouais, super, belle trouvaille.
Tiens. C'est la première fois que tu ramasses les déchets ?
Non, je l'ai fait à l'école. On a fait un truc. Ramassage, et moi j'ai trouvé, enfin les trucs que j'ai trouvé, les plus incroyables que j'ai trouvé, c'est un frigo, un casque de moto et un ballon de mariage.
Et un ballon de mariage?
Oui.
C'est quoi un ballon de mariage?
Il y avait un ballon en forme de cœur, transparent, et à l'intérieur il y avait un ballon rose, plus petit, en cœur rose.
Moi j'ai trouvé une télé il y a pas longtemps.
Une télé?
Ouais, une grosse télé comme ça.
Où?
En mer, dans les palaos. Une île où on est passé avec Tara, avec le bateau. Ah non, je disais, c'est hallucinant parce qu'on est arrivé ce matin vers 8h. On voyait du plastique, c'est sûr. Hein. Mais on voyait pas qu'il y en avait énormément. Et en fait, au bout de même pas une heure, hein, bah en fait, il y a un gros monticule énorme. Et il y a tout, des bidons, beaucoup de polystyrène. Et puis surtout, on se balade avec notre sac, mais on pourrait tous rester au même endroit. C'est dès qu'on soulève un caillou, on est partout. Et là, il y a des plongeurs là, qui sont en train de revenir. Pareil, ils sont chargés avec des bidons. Ah, c'est impressionnant. De toute façon, l'action aujourd'hui, c'est pas. Bon, bah, c'est de nettoyer, mais c'est pas la première fois qu'ils le font. Mais c'est surtout de sensibiliser. Donc là, après, tout ce qu'on a récupéré, on fait un gros tas sur la plage, là, au milieu, sur une bâche. Et après, on divise par propriété les bouteilles, les pailles, les briquets, etc. Histoire de pouvoir, derrière, essayer de sensibiliser les jeunes générations, mais aussi les moins jeunes. Ah, bah, là, il y a un frigo qui arrive. Là.
En fin de matinée, les bouteilles en plastique entassées sur la plage partiront en camion pour être recyclées. Une évidence pour Julie Meta, l'une des organisatrices de l'opération et doctorante en économie de l'environnement.
À Hong Kong, il n'y a pas encore de marché de la pollution. C'est pour ça que je travaille sur l'économie circulaire pour essayer de créer un marché des déchets, pour que les déchets ne soient plus considérés comme un déchet, mais comme une valeur de ressources, pour essayer que même dans ces mondes libéraux, les marchés et de la pollution et des déchets s'équilibrent. Les gens sont souvent négatifs, surtout à Hong Kong, ils pensent qu'on ne peut pas recycler, c'est pas vrai. Il y a des centres qui recyclent à Hong Kong le plastique et d'autres déchets. Donc c'est important que les scientifiques, les gens qui ont un poids important dans la vie publique et la vie politique puissent être présents et puissent dire au public « c'est possible, on peut le faire tous ensemble, on a besoin de le faire tous ensemble, mais c'est possible, il ne faut pas être pessimiste ». Vis-à-vis du problème des déchets, mais plutôt essayer de trouver des solutions tous ensemble.
De la plage au camion, les plastiques passent de main en main jusqu'à arriver en bout de chaîne dans celle d'Alan Wang. Il est le responsable de Shunxing, l'entreprise hongkongaise chargée de les recycler.
Ces plastiques sont recyclés ici à Hong Kong. D'abord, on les trie. Ensuite, on les nettoie et on les fait fondre pour en fabriquer des pellets, des petits granulés de plastique. Ces pellets ne sont plus des déchets, mais un matériau que l'on peut exporter en Chine, où ils servent à construire des tuyaux.
Au total, 7562 pailles et bouteilles en plastique ont terminé à l'arrière du camion d'Alan après seulement quelques heures de ramassage sur 5 plages de Hong Kong. Romain Troublé était là aussi, il est le directeur général de la fondation Tara Expédition.
C'est important Hong Kong parce que c'est un endroit, parmi les endroits où on est passé dans Tara Pacific, c'est un endroit les plus sous stress anthropique. C'est-à-dire qu'ici, le développement urbain, la population est telle qu'on a un impact, on mesure des impacts incroyables sur l'écosystème. Et de voir ce qui se passe au niveau du corail, au niveau des récifs coralliens à Hong Kong par rapport à ce qui peut se passer dans d'autres pays du monde où on est passé dans le Pacifique, ça te permettra aussi de comprendre un peu comment le corail s'adapte ou pas à ses stress, à ses contraintes. Ici aussi à Hong Kong, il y a des récifs qui sont à la fois soumis à la pollution du fleuve de la rivière des Perles, qui vient de l'Himalaya, qui vient de Chine. Et à la fois des récifs complètement préservés dans une zone propre du nord-est du territoire d'Hong Kong. On peut essayer de comprendre aussi comment localement les espèces s'adaptent à ces contraintes de pollution et d'urbanisme aussi à outrance qui est à Hong Kong.
De retour sur le bateau, on retrouve un groupe de scientifiques de HKU, l'université de Hong Kong. Dans quelques jours, ils quitteront le quai numéro 9 à bord de Tara pour aller prélever du corail dans les récifs de l'archipel. Et parmi eux, il y a Thiel Rottig, il est biologiste marin et il a déjà embarqué sur Tara.
7 millions et demi de personnes vivent à Hong Kong, sur un territoire très réduit. C'est un archipel, donc l'environnement marin est omniprésent. Et bien sûr, cette densité de population le long de la côte a un impact sur l'écosystème sous-marin. La côte se développe rapidement, notamment avec la construction d'énormes immeubles qui ont quasiment les pieds dans l'eau, grignotant de l'espace sur ce qui était autrefois de la nature. Évidemment, cela perturbe et même détruit l'écosystème. Mais il y a aussi d'autres impacts qui vont de pair avec cette urbanisation rapide, comme l'afflux important d'eau usée dans la mer, qui affecte particulièrement l'environnement des récifs coralliens. Il y a encore d'autres formes de pollution, le plastique par exemple, ou tous les déchets qui se retrouvent dans l'océan. La pression que représente aussi la pêche au niveau local, et qui est très importante ici à Hong Kong. En plus de tout ça, l'agriculture le long des côtes accentue le phénomène de sédimentation. De petites particules sont rejetées dans l'océan. Les coraux de Hong Kong ont été exposés à un fort taux de sédimentation depuis des années, ainsi qu'à d'importantes variations de température. Et on ne sait pas encore pourquoi certains coraux ont réussi à encaisser ça. Mais tout ça, combiné aux stress locaux comme la surpêche, la pollution, la sédimentation, le développement des côtes, fait qu'eux aussi commencent à dépérir.
Vous avez déjà quelques pistes de comment l'aider? Il y a des solutions?
L'idée générale, en ce moment, et je la partage, est que les coraux sont capables de s'adapter pour résister au changement climatique, du moins jusqu'à un certain point. Si on supprime les pressions locales, surpêche, pollution, sédimentation, développement des côtes, alors le corail a davantage d'énergie pour s'adapter et faire face aux variations de température, ce qui leur permettra de survivre plus longtemps. Hong Kong, et c'est la raison pour laquelle c'est intéressant pour Tara de venir prélever ici, est un endroit particulier qui offre une vision du futur. Ici, les coraux sont très résilients. Ils ont survécu à de nombreux stress par le passé et ils s'y sont adaptés. Ils vivent aussi dans un environnement hyper urbanisé et sont apparemment capables de s'en accommoder. En plus de cela, il faut prendre en compte le changement climatique. L'océan se réchauffe. On peut donc observer comment le corail se comporte dans cet environnement urbain. Et ce qu'on constate, c'est que malheureusement, les coraux sont en train de lutter contre tout ça. C'est donc l'occasion de regarder exactement ce qui s'est passé et de comprendre afin de protéger les coraux dans d'autres régions.
Depuis décembre dernier, la Chine a fermé ses frontières aux déchets étrangers et Hong Kong, même si elle appartient officiellement à la Chine, doit désormais gérer elle-même ses détritus, un véritable défi. Il y a encore du chemin à faire, mais la ville voit déjà éclore des projets novateurs, comme le Tea Park, construit par Veolia en 2015, où nous emmène Julie Meta.
On est sur Castle Road Peak, et là, sur le chemin de Toon Moon jusqu'à Tea Park, on passe sur toutes les entreprises qui gèrent les déchets et l'énergie à Hong Kong. Donc on vient de passer quelques décharges. Là, il y a l'Eco Park, donc qui est vraiment la plaine industrielle du recyclage de Hong Kong, donc avec des entreprises comme Alba, Chongqing. Et en face, on a la Castle Peak Power Station, qui est en fait l'usine de production d'électricité de Hong Kong, qui appartient à CLP, China Light Power, et qui est une des plus grosses de Hong Kong. Donc elle fonctionne au charbon et au gaz. C'est ça, Tea Park. C'est toute la merde de Hong Kong. Là, on est sur la terrasse du Tea Park et on voit au loin toute la skyline de Shenzhen avec son port et le pont qui relie Shenzhen à Hong Kong. Et en première partie, on a tous les parcs à huîtres. Et ça, ce qu'on voit là, c'est les décharges. C'est le stade final des décharges. Et on voit bien que c'est bien géré, il y a les bâches, il y a différentes couches. Les gens viennent, ils repoutent les déchets, ils remettent des bâches. Mais c'est plein, il n'y a plus de place. Le stade final, le dernier endroit où les déchets vont être entreposés, jusqu'à nouvel ordre, c'est ici. On laisse nos déchets dans un sol qu'on pollue à vie.
Entre saturation des décharges, manque de place et respect de l'environnement, sur terre comme dans la mer, le défi de la gestion des déchets à Hong Kong est colossal. Et pour tenter de le relever, le gouvernement a d'ores et déjà annoncé la création de la première île artificielle entièrement dédiée au traitement des déchets. 16 hectares en tout gagnés sur la mer, qui devrait absorber l'équivalent de 30% de la production totale de la ville. Fin d'escale, Tara quitte enfin le quai numéro 9 et les tours de Hong Kong, cap au nord-est, vers Crescent Island. Les Taranautes sont impatients. Ils ont rendez-vous avec les coraux hongkongais.
Un reportage de Agathe Roulin réalisé par François Porcheron avec la complicité d'Élodie Bernolin. Jean-François Guiglione, vous êtes directeur adjoint de l'Observatoire océanologique de Bagnoul-sur-Mer. Dans le reportage, nous avons entendu Romain Troublé, le directeur général de la Fondation Tara Expédition, s'inquiéter de la capacité de la biodiversité à s'adapter à cette pollution, notamment le corail évidemment. Et vous avez une partie de la réponse avec ce que vous avez observé quand vous naviguiez à bord de Tara dans les îles Samoa, l'est du Pacifique.
Effectivement, les îles Samoa, c'est des petites îles qui sont au milieu du Pacifique. Et quand on est arrivé là-bas, en fait, en général, on met l'embarcation à l'eau, on va voir directement sur le terrain où est-ce qu'on va échantillonner. Et quand on a mis la tête sous l'eau, on s'est rendu compte que, au départ, on voyait tous les coraux qui étaient morts. Et donc, ça arrive des fois sur certaines zones. On est allé de plus en plus loin et on s'est rendu compte qu'il y avait vraiment de plus en plus de coraux qui étaient morts. On a complètement changé nos plans par rapport à ce qui était prévu au départ. Et on s'est dit, on va faire un bilan sur toute cette île pour savoir si le corail est mort partout ou pas. Donc on a travaillé pendant 3 jours, on a fait plus de 120 sites, plus de 120 mises à l'eau, on a couvert à peu près 90 km de côte. Malheureusement, en fait, le constat était édifiant. On avait une couverture de corail, donc c'est-à-dire quand on regarde le fond et qu'on voit le corail vivant ou le corail mort, le corail vivant, il représentait que 1% pour la moitié des sites, et pour 80% des sites, c'était inférieur à 10%, donc plus de 90% de mortalité partout.
Et ça se voit simplement à l'œil nu, puisque le corail mort est blanc, alors que le corail vivant est coloré.
Effectivement, en fait, le corail, comment ça fonctionne? C'est un animal au départ qui a un squelette, et ce qui lui donne sa couleur, c'est une petite algue qui vit en symbiose avec le corail. Et quand le corail est stressé par de la pollution ou par des augmentations de température, il va perdre cette petite algue symbiotique. Il n'aura plus sa couleur. Donc effectivement, il devient blanc. Là, c'est pas du tout ce qu'on voyait. En fait, on voyait un corail gris et déjà recouvert d'algues. Et ça, c'est typique d'un corail qui est mort, parce que le corail qui est encore blanc, il a une possibilité de récupérer cette algue symbiotique et de reprendre ses couleurs et de guérir.
Mais dans un délai très court.
Dans un délai très court. Il ne faut pas que ça dure trop longtemps, le stress. Mmh. Et là, on était face à un cimetière de corail parce que la structure du corail était encore là. Par contre, c'était recouvert d'algues. Et ça, c'est typique d'un corail mort qui, la prochaine tempête, va tomber dans le fond et va devenir du sable bientôt, quoi.
Et alors du coup, quelles sont les causes? Puisque les scientifiques de Tara ont publié pour la première fois, c'était les premières publications de cette expédition Tara Pacifique. Comment est-ce qu'on peut expliquer la mort de ce corail dans ces îles Samoa, comme ça, en plein milieu du Pacifique?
Alors, les causes certainement de cette mortalité à cet endroit, elles sont, je dirais, doubles. Il y a un problème qui est à grande échelle, qui est le réchauffement climatique, et puis un problème local. Et l'association des deux est certainement la cause de ça. Donc, le problème du réchauffement climatique, c'est que le corail, il a, un optimum de température où il va pouvoir vivre. Il va pouvoir vivre, par exemple, entre 15 degrés et 25 degrés. Dans les îles Samoa, on s'est rendu compte que, effectivement, il a l'habitude de voir des changements de température, parce qu'il y a le El Niño qui réchauffe l'eau. Et ce El Niño, couplé à une augmentation de température un tout petit peu due au réchauffement climatique, et ça va causer la mort du corail, ou en tout cas son blanchissement.
El Niño, c'est un phénomène naturel.
C'est un phénomène naturel, mais le réchauffement climatique vient s'additionner sur ce phénomène El Niño, et il suffit que la température, comme je disais tout à l'heure, c'est entre 15 et 25 degrés par exemple, sur une zone, il suffit que ça monte de 1 degré supplémentaire par rapport à l'intervalle, et le corail peut mourir. Personnellement, c'était mon premier choc climatique. On entend parler souvent en fait de la grande barrière de corail en fait
en
Australie, qui a été détruite à peu près de moitié dans les 30 dernières années. Donc ça, c'est quelque chose qui est très médiatisé, mais je l'avais jamais vu de mes yeux. On venait de zones d'îles à côté qui étaient magnifiques, et sur cette zone en particulier, en fait, il y a une mortalité importante.
Mais malheureusement, ce n'est pas le seul endroit où Tara a constaté que des coraux sont morts.
Effectivement, il y a des zones qui sont plus ou moins sensibles. Alors, je vous ai parlé de la première cause de cette mortalité du corail. La deuxième cause, en fait, c'est plutôt les polluants, et c'est ce qui explique un petit peu le côté local. Pourquoi on avait une mortalité aussi importante? La première chose, c'est que tout de suite, on est allé voir les collectivités locales pour savoir un petit peu comment fonctionnait leur île, etc. Là, la pollution de l'eau chez eux, elle est assez importante. Il n'y a pas de traitement des eaux usées.
Tout est rejeté directement
à la mer. On a une surpêche aussi. Donc, les gens vivent de la pêche et les embarcations sont de plus en plus importantes. Et ça, en fait, ça va perturber l'écosystème, dans le sens où on a, par exemple, cette étoile de mer qui s'appelle la cantastère, qui va pouvoir se mettre sur le corail et le grignoter. Normalement, son prédateur, ici, c'est le triton géant, c'est le poisson globe, c'est le poisson Napoléon. Si on les pêche trop, du coup, en fait, cette étoile de mer va grignoter le corail et va contribuer à la mortalité qu'on a pu observer. Il faut savoir que dans les zones là-bas, on pêche encore la dynamite, on pêche encore avec du cyanure. Donc ça, c'est des choses qui ont un impact direct sur cet écosystème fragile.
Et c'est là où on marche sur la tête, parce que finalement, le corail, c'est la nurserie des poissons.
Tout à fait, oui.
Donc les pêcheurs qui détruisent le corail détruisent leurs ressources.
Si on essaie de réfléchir à des solutions, parce que
c'est toujours bien quand on est... Terminons cette émission sur une note positive.
Quand on est un scientifique, on fait un état de ce qui se passe, et puis on aimerait bien aller aussi vers les solutions. Et effectivement, ces solutions, ici, ce qui est intéressant, c'est que il y a deux aspects. Le premier, c'est il y a quelque chose à faire localement, parce que ce qu'on a vu ici sur les Samoa, bah, évidemment, ça peut s'étendre vers les îles qui sont autour. Donc là, on était peut-être au début d'un phénomène qui est en train de se passer dans le Pacifique, qui risque de s'étendre, parce que si on pense au réchauffement climatique, bah, visiblement, on va réduire de 1 ou 2 degrés, mais d'ici là, en fait, le corail va subir les conséquences de ça. Et puis, l'autre chose, en fait, c'est gérer localement le traitement des eaux, la pollution, et ça, c'est des choses qui sont encore faisables.
Donc l'expédition Tara sert à ça. Merci beaucoup Jean-François Guiglione d'être passé dans C'est pas du vent. Vous pouvez suivre l'expédition Tara en direct sur leur site océan.taraexpedition.org. Merci à vous pour votre fidélité. D'ailleurs, à partir de ce soir, RFI change de grille et C'est pas du vent change d'horaire. L'émission sera désormais diffusée le jeudi et le vendredi à 16h10 sur Paris et à 14h10 en temps universel. Si ces horaires ne vous conviennent pas, vous pourrez écouter l'émission en podcast sur notre application Pure Radio ou sur le site de RFI, onglet émission. Prenez soin de vous et des vôtres. On se retrouve jeudi prochain, même planète, même heure.